le magazine des Nations Unies.
Yacoma, sous la pression des réfugiés centrafricains fuyant les combats dans leur pays, du 1er au 3 février 2021, David Makatanka, représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire, et Mme Liz Awa, représentante du HCR en EDC, s'étaient rendus dans ces territoires du Nord-Ubangi et au chef-lieu de la province pour toucher du doigt cette réalité et évaluer les besoins humanitaires avec les autorités locales et provinciales, les acteurs de la société civile, mais aussi avec les réfugiés eux-mêmes. 700 nouvelles classes à construire dans la province du Tanganyika, un projet du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF. Le représentant de cette agence en République démocratique du Congo, Edouard Begbeder, l'a annoncé à Kalemi mercredi dernier lors de son séjour dans cette ville. Et enfin, au moins 9 bases militaires des compagnies FRDC seront construites à Beni, au Nord Kivu, avec l'appui de la MONUSCO. La pose de la première pierre a déjà eu lieu. Un projet à situer dans le cadre du mandat de la mission onusienne dans son volet renforcement des capacités opérationnelles des forces congolaises.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce magazine par le nord du pays en nous rendant précisément dans le nord Ubangi, une province qui vit sous la pression de l'arrivée massive des nouveaux réfugiés centrafricains fuyant les atrocités chez eux. Ce qui explique la mission d'une équipe conjointe des Nations Unies qu'a conduite du 1er au 3 février dernier à Yakoma et à Badolité, le représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire en RDC, David McLachlan Carr. Nous avons accompagné cette équipe, suivez ce reportage.
Mardi 2 février 2021, à leur deuxième journée de la mission à Yakoma, David McLachlan Carr et Liz Awa sont accueillis ici par la population en délire du village Modalé, où un site a été identifié pour construire un camp de nouveaux réfugiés centrafricains. La veille déjà de leur arrivée, les deux hautes personnalités avaient rencontré un échantillon de ces réfugiés. McLachlan Carr.
Nous sommes ici comme une équipe multi-agence pour évaluer vos besoins ici.
Message renchéri par la représentante du HCR en RDC.
On vient, on voit vos réalités, on échange avec vous. Et après, nous aussi, toute l'équipe, on va vers les donateurs pour leur dire qu'effectivement, cette population est bel et bien là. Nous les avons vus et ils ont besoin de tout ce que vous venez de décrire ici.
Le secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés faisait aussi partie de la mission au nom du gouvernement.
Je peux vous dire que nous n'allons pas résoudre tous les problèmes, mais donnez-nous des priorités en sorte que nous travaillons ensemble pour résoudre premièrement les priorités les plus importantes.
Suivez maintenant le plaidoyer du représentant des réfugiés centrafricains adressé au coordonnateur humanitaire et à sa délégation à Yakoma.
Et il y a des carences des produits pharmaceutiques. Nous avons des femmes en tête. Nous avons même des femmes qui ont des bébés en tête, qui les alertent. Nous avons constaté dans la ville, et précisément là où nous sommes, à Ouanso, à Ndayo, à Ngadama, même ici au centre-ville de Yakoma, on a des problèmes de eau et assainissement. On a ce terrible problème-là. Vous allez voir cette rivière-là, qui est notre eau potable qu'on boit. Et c'est ça notre première lacune. Vous voyez, la santé de la population est mise au danger. Avec la situation de coronavirus qu'on traverse présentement à Yakoma, la situation scolaire des enfants, tout est bloqué. Et finalement, on ne sait quoi faire. On ne sait quoi faire.
L'administrateur du territoire s'est également exprimé pour parler des conséquences néfastes à la suite de l'arrivée dans sa juridiction des nouveaux réfugiés centrafricains.
À la date du 18 janvier, nous avons déjà encaissé plus de 36 176 personnes qui se sont réfugiées chez nous. Alors cet afflux a augmenté sur le plan économique le taux de prix alimentaires sur le marché. Les vivres, vraiment, c'est un peu difficile.
Vous pouvez donner un exemple d'un produit qui a augmenté de prix?
Oui, oui, un bassin de foufou, farine de manioc, qui était à 10 000, maintenant nous sommes à un plus de 15 000. Un bidon d'huile qui était de 15 000, maintenant c'est autour de 25 000.
Quittons le nord de la RDC pour l'est à Beni, au nord Kivu. La MONUSCO se propose d'appuyer la construction de 9 bases militaires au bénéfice des compagnies FRDC. La première pierre de ce projet a été posée la semaine dernière. Un projet qui cadre avec le mandat de la mission onusienne dans son volet renforcement des capacités opérationnelles de l'armée congolaise. Suivez plutôt les propos du lieutenant général Obedi Rwibasira, recueilli par la presse FRDC.
La pose de la première pierre de 9 bases à l'échelon de compagnies dans les zones rouges, c'est un début du processus de la résolution 2502 des Nations Unies qui prévoit le retrait progressif et responsable de la MONUSCO. Pour qu'au fur et à mesure, quand la MONUSCO va se désengager, nous puissions remplir la mission de l'État, c'est-à-dire la sécurité. Donc, autant on nous construit la première base, demain ça sera la deuxième jusqu'à la neuvième base. Mais le message c'est qu'un jour, la MONUSCO, quand elle partira, les FARDC vont continuer à assumer la responsabilité régalienne de l'État.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Revenons sur l'entretien de Julien Lesourd, directeur de projet au sein du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en rapport avec la problématique de l'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville de Goma au nord Kivu. Julien Lesourd donne de plus amples explications sur cette problématique en répondant aux questions de Rosalie Zawadi. Suivez.
Monsieur Julien Lesourd, bonjour.
Bonjour.
Quel est d'abord l'intérêt de cet atelier?
Alors en fait, le CICR en 2017-2018 avait fait un schéma directeur sur l'approvisionnement en eau potable des quartiers ouest de Goma. Et l'étude qui vient en fait de compléter ce schéma directeur qui a été fait dans le courant de l'année 2020 concernait les possibilités de financement et les modalités d'exploitation d'un réseau d'eau potable. Donc l'atelier qu'on a organisé visait à présenter différentes conclusions de cette étude aux partenaires et aux acteurs les plus impliqués dans le domaine de l'eau.
Et qu'est-ce qu'on peut retenir des résultats de cette étude?
Alors d'une manière générale, mais l'étude l'avait déjà montré au niveau du schéma directeur, il y a des larges parties de Goma qui ne sont pas aujourd'hui desservies par un réseau d'eau potable, que ça pose effectivement des gros problèmes au niveau de la situation sanitaire de la population, ainsi que pour le poids économique de toute la corvée d'eau que ça peut représenter sur les différents ménages, on pourrait dire en Goma en général, mais en particulier sur les secteurs, les quartiers ouest de Goma, qui sont ceux qui ont connu une évolution démographique rapide la plus récente. L'étude, en fait, aujourd'hui que nous présentions, en fait, n'a pas de conclusion ferme et tranchée, elle s'est surtout attachée à analyser des possibilités de financement, les modalités économiques aussi pour assurer que le réseau d'eau potable, son exploitation serait financièrement viable, pérenne, pour que le service de l'eau puisse être assuré pendant plusieurs décennies, une fois que des infrastructures seraient réalisées.
Si on prend depuis 2017 que vous réfléchissez, la population de la partie ouest de la ville peut espérer avoir de l'eau?
Alors, effectivement, nous, ce qui est important avec ce projet, c'est d'essayer de mobiliser différents acteurs pour qu'on puisse, notamment au niveau des financements, réaliser les infrastructures qui seraient nécessaires pour compléter cette desserte en eau sur les quartiers ouest. Il faut quand même se rendre compte que rien qu'au niveau de travaux de construction, on parle d'un budget qui est estimé à peu près 25 millions de dollars, simplement pour la construction des infrastructures. Par rapport à ça, il y a aussi eu toute une réflexion sur d'autres mesures qui devraient accompagner la construction proprement dite, notamment pour garantir une exploitation de qualité. On a par exemple dans ces mesures le renforcement des capacités de la province pour la gestion, la planification du développement du patrimoine. On a des mesures qui serviraient à renforcer les exploitants de systèmes d'eau, mais aussi des mesures qui viseraient aussi à impliquer la population. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, donc c'est vrai que le projet commence à être conceptualisé, mais qu'aujourd'hui on continue à attendre des financements.
Et donc, les projets, il est là, mais les fonds ne sont pas disponibles. Là, vous venez d'avancer un montant de 25 millions de dollars juste pour la construction des infrastructures. On peut dire qu'il faut environ combien au total pour la mise en œuvre de ces projets pour desservir les populations de l'ouest de la ville de Goma en eau potable?
Alors là aussi, moi j'ai parlé d'une première tranche de projet. La population de Goma, il faut le voir, grandit très très rapidement. Et donc, les infrastructures vont devoir suivre cette croissance démographique exponentielle très rapide. Donc là-dessus, après, on peut avoir d'autres séries de projets qui se grefferaient là-dessus pour d'autres quartiers qui aujourd'hui sont faiblement urbanisés, mais qui dans un futur proche vont se développer, etc. Après, nous, le schéma directeur qui avait été fait en 2017 concluait au niveau des investissements totaux qu'il faudrait faire plus de 60 millions de dollars, mais c'est des chiffres qui aujourd'hui demanderont totalement à être réactualisés selon l'évolution de la situation, etc. Nous, la partie dont on souhaite s'occuper aujourd'hui, c'est une première tranche de travaux pour qu'il y ait déjà des infrastructures de production, etc., de base, augmenter le stockage, donc qui est quand même déjà un bon squelette de départ. Mais ça devrait être complété par d'autres choses. C'est pas qu'il ne se passe rien aujourd'hui sur Goma et sur Goma Ouest, avec les faibles moyens dont on dispose. Le CICR, par exemple, est engagé dans des réhabilitations de structures existantes. Donc, par exemple, on a remplacé les pompes de la station Keshero. Cette année, on est en train de mener des travaux pour remplacer une conduite d'eau potable sur la zone de Keshero vers la cathédrale, pour que au moins ces zones-là puissent avoir un approvisionnement un peu plus fiable. Mais ça ne reste que des mesures un petit peu temporaires et ça ne peut pas compenser les investissements majeurs dont je viens de parler qu'il faudrait réaliser.
Julien Lessot, merci.
Merci beaucoup.
C'est jeudi 4 février 2021 que Mme Leila Zerugui a quitté la RDC après avoir terminé son mandat à la tête de la MONUSCO. David Gressler lui-même fait mandat comme représentant spécial adjoint en charge de la protection et des opérations, assumera l'intérim du chef de la mission onusienne du 4 au 12 février avant de le céder au représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire David McLachlan Carr à partir du 13 février jusqu'à l'arrivée de la nouvelle représentante spéciale, la Guinéenne Bintou Keïta. MONUSCO encore, au Nord Kivu, les ingénieurs bangladais travaillent depuis le 1er février à la réhabilitation de la route allant de Kabeti à Pinga en passant par Kichanga et Mpeti. La réhabilitation de cet axe routier devrait améliorer la circulation entre Sake et Pinga, faciliter l'accès aux forces de sécurité et renforcer les échanges économiques dans la région. Enfin, justice à Kananga, dans le dossier des experts de l'ONU, les mèches des cheveux retrouvées dans les effets de Vincent Manga lors de son arrestation sont celles de Zaïda Katalam. C'est ce que révèle un rapport d'expertise présenté mardi dernier par le ministère public lors d'une audience de procès des présumés meurtriers des deux experts des Nations Unies devant la cour militaire de l'ex-Kassai occidental.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous revenons, comme annoncé plus haut, à la mission conjointe de Yakoma et Badolité effectuée par le représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire David McLachlan Carr et la représentante du UNHCR en RDC, Madame Lizawa. C'était une mission d'évaluation des besoins humanitaires occasionnés par des nouveaux afflux des réfugiés centrafricains enregistrés depuis le début de cette année, notamment dans les territoires de Yakoma, dans la province du Nord-Ubangi. Avant de quitter Badolité, dernière étape du voyage, les deux personnalités de l'ONU se sont prêtées à nos questions. Suivez.
Monsieur David McLachlan Carr, bonjour.
Bonjour.
Madame Liz Awa, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de boucler votre mission conjointe à Yakoma et à Badolité en rapport avec la situation humanitaire causée par un nouvel afflux ou des nouveaux afflux des réfugiés centrafricains. Vous avez beaucoup vu, beaucoup entendu, et certainement beaucoup noté. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? On commence par vous, monsieur le coordonnateur humanitaire.
Merci beaucoup pour la question. Effectivement, nous sommes arrivés il y a 3 jours ici en Nord-Ubangi.
dans une mission conjointe entre l'équipe humanitaire du pays et avec le leadership des HCR pour évaluer la situation des réfugiés centrafricains qui sont arrivés en RDC dans les derniers 2-3 mois. Nous sommes allés à Yokoma pour une journée d'évaluation là-bas. Maintenant, on se trouve ici à Badolite pour des négociations avec les autorités provinciales, avec le gouverneur intérimaire et avec son cabinet sur les besoins des réfugiés qui se trouvent dans le territoire de la RDC. Le gouvernement national estime qu'ils sont arrivés à peu près de 92 000 réfugiés, que c'est un grand nombre qui se trouve maintenant dans quelques sites à la longueur de la rivière qui est la limite frontalière entre la RDC et le CAR. On a pu constater que les réfugiés sont arrivés en sécurité. Ils sont maintenant hébergés avec les populations locales. Nos opérations humanitaires ont déjà commencé. Nous avons les équipes qui sont déjà sur le terrain et qui sont en train de fournir l'assistance aux réfugiés. Ils ont fourni la nourriture, des services de santé, des abris. Et nous sommes en train maintenant d'organiser aussi comme des programmes d'assainissement. Et dans le futur aussi, on pense pour l'éducation des enfants centrafricains. Parce que parmi les réfugiés, il y a un grand nombre de jeunes, des enfants, qui ont besoin aussi de scolarisation. Bon, il y a beaucoup de défis pour notre programme. Il y a des problèmes, comme toujours, des sous-financements. Nous devons mobiliser des ressources auprès des bailleurs des fonds pour continuer les opérations. Il y a aussi le problème des retours des pluies dans cette zone. Dans quelques mois, il serait presque impossible d'accéder par terre les communautés affectées et les réfugiés. Et ça, c'est un grand problème. Alors, nous devons réagir vite. Et c'est une priorité pour nous, cette opération. Il y a pas encore de problème de sécurité. Je crois que grâce à l'appui du gouvernement national, les réfugiés se trouvent dans une condition de sécurité, mais il y a toujours le danger de voir des incursions armées parmi ces populations et nous devons aussi travailler avec la police, les DGM, police nationale, pour garantir la sécurité des réfugiés. Et finalement, une préoccupation assez grande pour nous, c'est les populations locales. Les Congolais aussi qui hébergent les réfugiés avec beaucoup de générosité, mais il y a un impact social, économique sur la population locale et nous devons aussi fournir une assistance à la population locale qui est impactée par l'arrivée d'autant de réfugiés.
Madame, on ne va pas entrer dans la guerre des chiffres. Le gouvernement parle de plus de 90 000. Quelles sont les statistiques dont dispose l'OACR à ce propos?
Merci beaucoup. Bon, je vais vous répondre par rapport à la statistique, mais j'ai aussi des choses à compléter ce que le coordinateur humanitaire a dit. Pour ce qui est des statistiques, le gouvernement nous a donné les estimatifs à travers les agences comme la DGM, l'ANR et la police. C'est 92 000, 92 000. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un enregistrement, effectivement, pour arrêter les chiffres et pour pouvoir maintenant porter à l'autorité un chiffre de gens qui pourraient maintenant donner le statut de réfugié. En ce moment, on a terminé l'enregistrement au niveau de Ndou, où on avait 13 000 personnes d'enregistrées. Mais puisque l'afflux n'a pas arrêté, on a quand même un diapositif qui va continuer à faire l'enregistrement. Nous sommes au niveau de Yakoma. Là encore, on a trouvé 3 000 personnes, autour de 3 000 personnes enregistrées, ce qui nous amène à une population à peu près de 15 000, 16 000. Sur les 92 000, mais je répète bel et bien que ça, des estimatifs dans les trois provinces. En ce moment, les réfugiés sont dans plus de 40 localités, ce qui veut dire qu'il va falloir aller dans toutes ces localités avant d'arrêter un chiffre définitif. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la question. Maintenant, qu'est-ce qui m'a impressionné dans cette visite? C'est la question de la résilience de la population, que ce soit la population congolaise qui reçoit les réfugiés ou bien même les centrafricains. C'est en répétition cette guerre. Mais toujours est-il qu'ils ne sont pas abattus. C'est une situation accablante, mais ils ne sont pas abattus. Donc une résilience de l'esprit. Il y a bien sûr les besoins qui sont énormes, avec des difficultés pour faire arriver l'assistance sur le terrain.
mais nous aussi, on est solidaires dans notre action. C'est ainsi que nous sommes venus ici. Les ONG sont représentées, le système des Nations Unies est représenté, coiffé par le coordinateur. Ça veut dire que nous, on souhaite donner une réponse de taille dans la mesure de possible et dans la mesure de nos moyens. Donc, c'est simplement pour moi une occasion pour dire à la population que nous ne sommes pas en train de dormir. On est en train de chercher les moyens pour les assister et en collaboration, bien sûr, avec le gouvernement du Congo.
Monsieur le coordonnateur, madame la représentante, vous avez été accueillis avec beaucoup de chaleur, beaucoup de joie de la part de la population locale, malgré ces difficultés. Quelle lecture vous faites de cette ambiance bon enfant au sein de la population d'accueil?
Oui, c'est une très belle observation. En effet, la population locale, c'est une population assez résiliente parce que c'est pas nouvelle cette crise. Il y avait des afflux des réfugiés qui sont venus depuis plusieurs années. Je crois que oui, ça démontre toujours la générosité de la population locale. Population résiliente, population généreuse, parce qu'il y avait aussi les inondations de l'année dernière, 2019. Et nous aussi, les agences du système des Nations Unies ont fourni l'assistance à des nourritures, des abris à la population locale affectée. Mais oui, c'est un plaisir, je dirais, de visiter ces sites et d'avoir un accueil chaleureux de part de la population locale.
Madame, ces visages souriants que vous avez vus, ne signifient-ils pas aussi peut-être un espoir quand la population vous a vu venir?
Bien sûr qu'il y a des attentes parce que dans le village où on est passé, il y a des infrastructures qui sont limitées au niveau sanitaire, au niveau des écoles et les routes et tout ça. Donc, il y a des attentes énormes. Mais pour autant, comme a dit le coordinateur humanitaire, on va cibler notre contribution pour que la population ne soit pas délaissée et qu'ils perdent l'espoir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Ceci dit, ce sera surtout les infrastructures communautaires. On devrait retaper, par exemple, les écoles. On a vu les écoles sur, je ne sais pas si je peux le dire, sur des arbres aussi. Hein. On va devoir faire des constructions. On ne pourra jamais remercier cette population assez, mais de petites constructions comme ça va pallier leur souffrance et leur générosité un petit peu. Il y a des ponts, là où même nous-mêmes, on était obligés de passer de côté du pont parce que le pont est complètement mauvais. On va faire un plaidoyer auprès de l'autorité gouvernementale pour qu'il y ait une assistance conjointe. Donc voilà des quelques interventions qu'on pourrait faire pour assister la population qui est si généreuse.
Madame a répondu peut-être à la dernière question que je voulais vous poser, monsieur le représentant spécial adjoint. Vous avez été accompagné par la partie gouvernementale à travers le secrétaire permanent de la CNR. À Yakoma, l'administrateur du territoire vous a accompagné partout. Ici, dès votre arrivée, vous êtes allé voir l'autorité provinciale. Qu'est-ce que vous avez dit aux autorités congolaises? Quel est le message que vous voudrez bien faire passer par rapport à cette crise humanitaire?
Bon, et quelques messages clés. On est ensemble. Nous sommes ici pour travailler avec les autorités locales pour fournir l'assistance. Nous avons besoin de l'aide des autorités locales pour garantir, par exemple, la sécurité. Travailler étroitement avec la police nationale, c'est bien important, avec le DGM. Le message, c'est clair aussi qu'il y a une crise financière global dans ce moment à cause de Covid. Et pour nous, il y a très peu de ressources que nous avons maintenant pour décaisser et pour aider ces populations. Alors, on a besoin de l'appui des autorités locales aussi pour faire face à cette crise. C'est vraiment de travailler étroitement avec les autorités, renforcer les capacités locales, mais aussi de travailler ensemble. Ça, c'est le message clé que j'ai transmis au gouverneur, au Até, à Yakoma. Mais de nouveau, nous avons remercié aussi plusieurs fois les Congolais aussi pour leur générosité. La RDC, c'est un pays qui respecte le droit des réfugiés d'être hébergés sur le terrain. C'est formidable. Alors, je dirais merci au gouvernement national, aux autorités locales. Nous sommes ici pour vous aider.
Monsieur le coordonnateur humanitaire, madame la représentante du ACR, merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Thank you.
construction de 700 salles de classe dans le Tanganyika. C'est un projet du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, en collaboration avec le gouvernement provincial. L'annonce a été faite mercredi dernier par le représentant de cette agence, Anec de lui-même, pendant son séjour à Kalemi. Les détails avec Expedi Mwamba Mobi.
À la fin de sa visite au site des déplacés de Kalonda, le numéro 1 de l'UNICEF en RDC annonce la construction de 700 salles de classe au Tanganyika. D'après Edouard Begbeder, l'UNICEF travaille de concert avec le gouvernement provincial.
Le Tanganyika fait face à une situation très difficile, dans le sens où il y a pléthore d'enfants dans les écoles, dans une école où il y a plus de 4000 élèves, alors qu'on ne peut qu'en accueillir que 2400. Donc avec le ministère de l'Éducation, nous avons préparé un plan de construction de plus de 700 salles de classe.
Le représentant de l'UNICEF en RDC précise toutefois les critères.
Le premier critère, ce sont des fonds pour supporter le retour des déplacés dans leur lieu d'origine ou dans les lieux de relocation. Le deuxième, dans les zones où, avec d'autres agences, on peut maximiser les résultats, comme à Kabalo. Et le troisième, c'est des sites où les écoles ont aidé les déplacés pendant la période où ils étaient là, mais aussi il y a des besoins de classes supplémentaires.
Kalemi, Expedi Mwamba Mobi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Aziz Abdoul Tioy, a répondu à cette question posée au cours de la dernière conférence de presse de l'ONU à Kinshasa. Suivez la question ainsi que la réponse.
Patrick Félix Abeli, je travaille pour Elections.net. Monsieur Aziz Tioy, vous venez là de peindre ce tableau-là qui est vraiment sombre sur la situation des droits de l'homme en RDC. Mais nous avons vu qu'hier, vous avez publié toujours ces mêmes rapports-là quand nous étions dans un régime qui est autre que celui-ci, dirigé par celui qui est appelé opposant d'hier, Félix Tshisekedi Tshilombo. Comment évaluez-vous la situation entre les deux régimes?
Il est vrai que la hausse que nous avons notée en 2020, elle est assez importante. Elle est de l'ordre de 21%. Donc, comparé à ce que nous avons connu en 2019, ça avait diminué. Et la diminution, comme vous le savez, était liée effectivement à un environnement de l'environnement, de l'espace démocratique. Il y a eu beaucoup plus un environnement meilleur en ce qui concerne l'exercice des droits et libertés par les partis politiques, la société civile, mais également les journalistes en général. Alors, c'est vrai qu'il y a un motif d'inquiétude quand nous voyons effectivement l'augmentation du nombre de restrictions liées à l'espace démocratique. La seule différence que je pourrais peut-être noter en termes de comparaison, même si les éléments de base ne sont pas les mêmes, parce qu'il faut des années de référence qui nous permettent de pouvoir faire les comparaisons, la seule différence que je pourrais noter, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas noté dans le cadre de notre travail une politique systématique. Une politique systématique signifie en réalité qu'il s'agit réellement de mesures prises au plus haut niveau et qui engagent l'ensemble des forces de sécurité et défense, en particulier les agents de l'ANR, comme nous l'avons vu dans les années passées, où nous avons assisté à une répression systématique de tout ce qui était tentative d'expression libre et démocratique des droits et libertés. Nous avons vu, et vous avez noté au cours de l'année 2020, où publiquement je n'ai pas arrêté de dire qu'il y a des velléités de restriction des libertés démocratiques dans le pays. Surtout dans le chef de certaines autorités au niveau provincial. Vous avez beaucoup de gouverneurs de province, vous avez beaucoup d'agents au niveau provincial qui ont pris des mesures qui visaient à intimider, menacer et arrêter avec le concours de l'ANR et de certains officiers judiciaires, des journalistes, des membres de partis politiques, mais également des défenseurs des droits de l'homme. Ça engage évidemment la responsabilité de l'État. Parce que ce sont des autorités administratives et au plus haut niveau, la responsabilité incombe à l'État congolais et ceux qui incarnent ces institutions. Mais la différence, elle est à ce niveau-là. Nous n'avons pas pour le moment une politique systématique qui consiste à réprimer à tout va, comme nous l'avons noté il y a quelques années, où de façon systématique, les personnes étaient arrêtées, transférées, détenues pour avoir émis un avis contraire à celui qui est l'avis officiel.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Trois dates à retenir pour le courant de la semaine du 8 au 13 février. 10 février d'abord, journée internationale des légumineuses. 11 février, journée internationale des femmes et filles des sciences. Et enfin 13 février, journée mondiale de la radio. C'est la fin de cette émission que vous pourrez retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Capi en émo. Je suis Honoré Missenga Kalala, j'ai bénéficié du concours technique de Willem Lungamba. Nous vous disons merci, bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Prenons un nouveau rendez-vous avec la même émission dimanche prochain.